Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse?
Le règlement.
Nous devons savoir.
Pour enfin démêler l'actualité judiciaire dans le monde du sport.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon Avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Maître Mongeon, comment ça va, Sophie?
Allô, Sophie.
Bonjour, ça va très très bien et vous?
Ben ça va bien. On prépare nos petits pour la rentrée. En termes sportifs, ben pour la rentrée du sport-études, il y a des questions. Comment on va organiser la chose? Bien sûr, les écoles ont leur plan, mais il y a cette réalité-là aussi, il faut conjuguer avec le déconfinement dans les écoles à sport-études.
Oui, effectivement. Puis là, Louis-Philippe, je dois te dire que on commence notre troisième saison ensemble. Fait que je suis très, très contente et jamais j'aurais cru qu'on aurait ce genre de discussion-là aujourd'hui, à savoir la rentrée scolaire avec des règlements, des règlements d'école, mais en plus des règlements qui sont si difficiles à respecter en ce qui concerne la distanciation puis le couvre-visage.
Ah, c'est fou, mais dans les écoles, tu sais, je pense juste aux professeurs qui ont des jeunes qui changent de classe. Certaines écoles, les jeunes restent dans la classe, mais pour d'autres, il va y avoir des battements de cours quand même. Donc, d'autres jeunes qui arrivent, il faut désinfecter les bureaux quand il y a du prêt de matériel. Exemple, dans les gymnases.
Oui, alors, oui.
Il faut désinfecter des ballons, des choses comme ça. Ça va être interminable.
Ah, ça va être vraiment l'enfer. C'est pour ça qu'il y a des règlements qui sont mis en place, mais je le dis souvent, c'est les règles de civisme. Et honnêtement, on n'a pas de boule de cristal. On va voir comment ça se passe. Mais ce qui a été fait, on le sait, c'est que maintenant, le port du masque est obligatoire pour les déplacements à l'intérieur des établissements scolaires, mais il n'est pas obligatoire quand on est en classe.
Ah, il y a certaines écoles qui demandent de garder le masque dans la classe.
C'est vrai?
Oui.
Ben, écoute,
au général, c'est cinquième année et plus, et c'est dans les corridors, pas en classe. Mais il y a certaines écoles, c'est tous les jeunes, peu importe l'âge, et toute la journée, avec le masque d'en face dans la classe.
Ben, écoute, ça va être l'enfer aussi. Mais on sait aussi, tantôt, la semaine passée, tu as eu un commentaire tellement approprié quand tu dis, si on peut l'enlever pendant la récréation puis pendant la classe, et on va les perdre, ces masques-là. Les pauvres professeurs qui devront effectivement gérer ça en plus de leur travail habituel.
Ils vont en avoir un de réserve dans le sac à dos, mais encore faut-il se rendre au sac à dos depuis la cour et marcher dans les corridors entre les deux et multiplie ça par le nombre des centaines de jeunes qu'il y a dans les écoles, les élèves. Ça va arriver à tous les jours, à toutes les heures. Il va falloir que tu ailles chercher un nouveau masque. Et j'espère qu'ils vont avoir des paquets de réserve. Ils demandent aux parents d'en procurer aux jeunes, mais j'espère que les écoles vont être prêtes.
En tout cas, on va leur souhaiter très, très bon courage. Ça, c'est pour les classes régulières. Mais pour le sport-études aussi, il y a des règlements qui sont mis en place. Par exemple, pour le hockey, les règles actuellement sont qu'il y aurait... les équipes seraient divisées en deux formations de 9 joueurs. Et au lieu de jouer, par exemple, un temps complet contre une autre équipe, par exemple en sport scolaire, il y aurait le temps de glace serait coupé en deux, puis il y aurait deux équipes. Donc, il y aurait 4 équipes en tout qui joueraient pendant le temps du sport. Alors, ça aussi, on va voir comment ça va se passer. Donc, ça serait du 4 contre 4. Et en plus, par exemple, au sport scolaire, si le triolet joue contre le collège français, il split les équipes, si vous me permettez l'anglophone. Et puis, effectivement, les déplacements vont être faits uniquement si tu n'es pas obligé d'arrêter de faire un plein d'essence.
Alors qu'on atteint des bas dans les cas de contamination de COVID, qui s'assemblent sous contrôle au Québec présentement, on n'a jamais eu autant de précautions là, présentement, mais il n'a jamais été aussi faible. T'sais, si on a eu ces précautions-là en avril, en mai, on aurait peut-être pu comprendre parce que là, c'était hors de contrôle. On en a pris des précautions, on a même tout arrêté à cette époque-là, mais là, on recommence, mais tellement prudemment. Je comprends, la deuxième vague va arriver éventuellement, mais j'ai bien l'impression qu'elle va arriver, qu'on mette ou non le masque à notre visage.
Bon, on va essayer de limiter. Vous savez, les taux d'influenza puis les taux de rhume ont quand même diminué considérablement.
C'est sûr, on est loin là, des autres.
Ben, c'est ça. Fait que la distanciation sociale, le port du masque, on fait nos efforts. Je pense que ça va donner lieu à quand même à des bons résultats. Je suis très, très confiante. Je suis toujours très optimiste dans tout ça. Donc là, au niveau primaire, on sait comment ça va fonctionner. Au niveau scolaire aussi. Mais au niveau des universités, par exemple, je donne l'exemple de l'Université de Rimouski qui, eux, ont fait un virement complet en ligne. Et en plus, ils ont préparé leur résidence à accueillir et à distancier les cas de COVID. Donc, par exemple, sur les 220 places disponibles en résidence, 170 sont pour les étudiants et 50 pour les cas COVID. Alors, on voit quand même que les organismes et les grandes institutions se préparent à la rentrée scolaire et ça va être un sujet très intéressant à suivre parce que, d'après moi, on va avoir plein d'anecdotes à raconter au courant de l'automne comment ça se passe tout ça.
Si parmi les médecins, il y a un joueur de football, eh bien, maintenant, maintenant, parmi vous, les avocats, il y a un joueur de hockey.
Ben oui, parce que là, je fais la transition entre le télétravail et le téléétude, parce qu'on voit justement que les institutions s'organisent en conséquence. Et j'ai trouvé que j'ai un collègue avocat qui s'appelle Mathieu Boily, alors je le salue, qui, lui, était un grand, grand sportif d'études. Et il a fait son barreau en 2019. Lui, il travaillait... Ben moi, je considère que c'est un travail.
Il joue au hockey.
Ouais, il était capitaine des Flammes de Gatineau.
Des Flames. Gatineau.
Oui, c'est un batailleur, si je ne me trompe pas, lui. C'est un gros gaillard là, de 200 quelques livres.
Un justicier.
Oui, il dit que...
Là, il est rendu avocat.
Oui, ben, voilà. Il dit que la plus grande difficulté qu'il a eue de sa vie, c'est passer l'examen du barreau. Alors...
Il paraît que c'est assez long, hein?
Ben c'est assez long. Voyez-vous, le barreau, cette année, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait beaucoup des examens à distance. Mais ça, je vous dis ça en toute confidentialité, le barreau ne l'avoue pas. Mais il y aurait eu des problèmes lors de l'examen en ligne. Il y aurait tellement eu de clics en même temps que le serveur a surchauffé et qu'il aurait manqué des points. Bref, ils ne disent pas, mais ils ont donné 4 points à tous les étudiants sur les petites questions qui ont été problématiques de justifier tout ça. Mais ça, c'est une légende urbaine, on ne le dit pas.
OK. C'est comme le sparring de nos boxeurs, ça n'arrive pas.
Non, c'est juste entre vous et moi ce matin, là. Donc, Mathieu Boily, lui, finalement, après avoir fait ses études, et c'est ça maintenant, on voit beaucoup de sportifs, étudiants, qui vont aller très loin dans leurs études. Puis, ce qu'il disait, c'est que ses entraîneurs avaient été très compréhensifs, puis qu'il a laissé étudier. Il a même manqué quelques matchs de préparation pour pouvoir aller dans ses études. Alors, Mathieu Boily, on vous salue et on vous félicite dans vos démarches, justement, de sport-études. Alors, j'encourage tout le monde à faire les mêmes choses.
Tu dis, on est dans une troisième saison. Oui. On l'a un peu délaissé dans les derniers mois parce qu'on a beaucoup concentré tes chroniques à informer nos auditeurs sur les mesures à prendre pour leur travail et pour la PCU également et toutes les affaires que le gouvernement a mis à la disposition des entrepreneurs. Sauf qu'on fait également dans cette chronique à la fin quelques règlements loufoques, quelques règlements des lois qui sont un peu bizarres que tu trouves à gauche à droite.
Oui, parce que je dis souvent que des fois c'est un peu difficile de voir les règlements qui sont mis en place par rapport à la distanciation. Puis la vraie vie, là, en fin de semaine, on a le droit d'avoir des rassemblements. Là. Qui parle masque en fin de semaine? Moi, quand je me suis promenée puis j'étais en auto dans les cours, je voyais pas beaucoup de monde qui respectait les règles.
Alors, quand tu es invité au barbecue, généralement, tu portes pas le masque. Là.
Non. Fait que, on essaye, là, mais bon, hein, c'est des directives, il n'y a pas encore de pénalité.
C'est dur de manger le hot dog quand tu as un masque qui t'empêche de le rentrer dans ta bouche. Là. Éventuellement,
absolument.
Tu l'enlèves. Est-ce que tu le remets après chaque bouchée?
Et puis entre vous et moi, là, ceux qui manipulent la bouteille de ketchup, là, est-ce que c'est désinfecté entre chaque personne?
Oh boy!
Vraiment,
amenez votre ketchup.
Ouais, c'est ça, les petits sachets. Là.
Non, c'est pas environnemental.
Non, ben ça aussi, hein. Effectivement, il y a des masques partout à terre. Ça, c'est une autre histoire.
Oh boy, oui. Hey, en vélo, j'en croise-tu du masque d'un piste slam?
Oui.
Il y en a partout.
Oui. Donc, il reste encore des règlements qui sont un petit peu loufoques ici au Canada. Donc, par exemple, en Ontario, à Petrolia, qui est une ville, il est strictement interdit de siffler ou de chanter en tout temps. C'est une amende de 250 $.
Attends. C'est pas appliqué, ça?
Oui, c'est un règlement. Écoutez, j'ai pas
vérifié. C'est un règlement, mais il n'y a pas une police de...
Ben, il faudrait demander à la ville d'Ontario. C'est un règlement de 2009 quand même. Là.
2009?
Oui, qui n'a pas été modifié encore.
Pas le droit de siffler puis de chanter dans les rues?
Non. Ben, entre 11h et 7h. Mais malgré tout, là, t'sais, on ne peut pas exprimer son bonheur.
La nuit.
Okay. À Toronto, il est encore interdit de jurer dans les parcs, donc d'utiliser un langage profane et abusif. C'est une amende de 200 $.
OK, wow.
À l'île du Prince-Édouard, ça, c'est une rigolo, là. Il est interdit de faire un bonhomme de neige de plus de 30 pouces.
En où?
Ben, là, il n'y en a pas en où, là. À tout moment qu'il y a de la neige.
T'es-tu sérieux, ça? Ben tu ne peux pas faire un bonhomme de neige de plus que 30 pouces.
Pourquoi tu penses?
Ben, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui est tombé sur un enfant qui est mort.
Non.
OK, pourquoi?
Une autre chance.
Parce que ça enlève de la visibilité aux automobilistes qui passent sur la rue.
Ah, non? Et puis tu m'épates. C'est pour ça? Pas effrayer les automobilistes.
Ah,
ben
oui,
voyons okay. donc.
Ben oui. Puis
ben ouais.
Au Nouveau-Brunswick, à Fredericton, il est interdit de sortir avec son serpent, donc de porter un serpent ou un lézard sur son corps
ouais,
en public.
Ça, ouais,
ben ça
ouais.
J'avoue que je comprends. C'est probablement pour des gens comme moi que ce règlement-là a été mis sur pied. Et là, je voulais vous raconter la saga de la beurre, du beurre et de la margarine. Ça, là, ça a été une saga judiciaire qui a duré pendant 20 ans. Est-ce que vous vous rappelez de ça, vous?
Ben, la couleur de la margarine, on voulait pas qu'elle soit jaune, hein? On voulait pas que ça s'apparente trop au beurre.
Non, et c'est ça, la margarine, au départ, là, c'est préparé de graisse animale, etc. Puis c'était interdit sous le gouvernement de Maurice Duplessis jusqu'en 1961. quand même, hein, quand on pense à tout ça. Et en 1987, la margarine a décidé de changer de couleur. Donc, elle veut être jaune pour être plus intéressante que transparente, parce que c'est pas très, très alléchant quand c'est transparent.
Ben, elle était blanche, en fait, avant qu'elle fonde.
Ben oui, mais tu sais, elle était toujours comme moins... dans le fond, ils trouvaient que c'était moins appétissant. Fait que c'est pour ça qu'ils voulaient absolument que ça soit en jaune. Et là, il y a eu un gros débat. Le ministre de l'Agriculture, en 87, interdit la couleur en disant que c'était une façon là, d'induire le consommateur en erreur. Et là, il est arrivé une saga extraordinaire. Il y a eu un gros débat public à Radio-Canada, une table ronde où l'Union des producteurs agricoles et l'Association des margariniers du Québec se battaient. Ils disaient qu'il y avait de la concurrence déloyale. Et là, le président de l'UPA disait « c'est pas le beurre qui attaque la margarine, c'est la margarine qui attaque le beurre parce qu'ils veulent le copier. » Fait que pour mettre ça devant les tribunaux, la compagnie Unilever, qui est un grand producteur de margarine, avait mis en 1997 dans une épicerie d'Alma de la margarine jaune. Combien de temps ça a pris avant que les inspecteurs du gouvernement saisissent les contenants illégaux?
35 minutes.
Deux heures.
J'étais pas loin.
Et ça s'est rendu jusqu'en Cour supérieure, cette histoire-là. Puis en 2008, au terme d'une saga de 20 ans, le Québec permet finalement aux fabricants de colorer en jaune le produit. Alors, quel drôle de règlement il y a plus de 20 ans.
Maître, bonjour, merci. Avec toi, on a le beurre et l'argent de la margarine. Bonne semaine.
Bonne semaine.
Ouais, Sophie.